On va démarrer la deuxième table ronde en direct et en public depuis les librairies Publico, comme on vient de le dire. Et donc, tous ceux qui sont partis côté librairie peuvent nous rejoindre pour assister aux échanges. La deuxième table ronde va être consacrée à la militarisation de la jeunesse et de la société. Et notamment, on va un peu essayer de comprendre quelles sont, puisqu'on savait qu'il y avait un dispositif qui s'appelait SNU, qui a été un peu assez foireux, on va dire, qui a coûté très cher, qui a peu fonctionné, qui a été globalement abandonné, mais tout espoir de militariser via l'école et l'éducation n'est pas abandonné. Et donc, on va essayer de voir un peu qu'est-ce qui se met en place. Ça a l'air d'aller. Et je passe la parole à Hugues, qui va nous présenter ses invités.
Bien, bonjour. On va donc faire d'abord un petit tour de table. Alors, on va peut-être commencer par Cassandre.
Enseignante dans un lycée du 94 et je suis militante à ce qui s'appelait le collectif contre le SNU Île-de-France, et on a acté qu'on s'appelait le collectif contre la militarisation de la jeunesse et de l'école en Île-de-France.
Léonard.
Bonjour, moi c'est Léonard, je suis à la CNT Éducation 93. C'est des questions qui nous tiennent à cœur, la lutte contre la militarisation. On en parle régulièrement, enfin de temps en temps, dans nos productions, notamment Le Chat du 9-3, qui est un journal de notre syndicat.
Christian.
L'Union syndicale solidaire, et je fais partie de celles et ceux qui ont lancé un peu le collectif national contre le SNU à l'époque, donc qui s'est transformé en collectif national contre la militarisation de la jeunesse et de l'éducation. Voilà,
donc moi c'est Hugues, des Chroniques syndicales, militant du groupe Commune de Paris, de la Fédération anarchiste, qui était aussi embarqué dans le collectif anti-SNU, puisqu'on a été Radio Libertaire et la Fédération anarchiste dans les premiers signataires. Et on l'est toujours. Voilà, donc avant de laisser la parole à Christian, qui va nous rappeler ce qui s'est passé depuis le protocole Ernus-Avary, pour les plus jeunes, rappeler simplement que cette militarisation de la jeunesse, c'est un vieux projet, puisque, pour ceux qui ont un peu de mémoire, dans les écoles républicaines, les écoles de la Troisième République, les enfants mâles défilaient avec des fusils en bois et se préparaient à être les vaillants guerriers martyrisés en 14-18. Voilà. Ensuite, on a des choses qui se passent plutôt en Angleterre, mais dont on a hérité, c'est le scoutisme. Le scoutisme, c'est Baden-Powell, qui était un général qui avait combattu dans l'armée des Indes, qui va organiser la jeunesse pour militairement, avec des uniformes, pour la civiliser. Et puis plus près de nous, on a eu un bel exemple aussi, entre 40 et 44 de 1900, avec les chantiers de jeunesse et Pétain, où là aussi, il s'agissait de civiliser cette jeunesse, soit pour qu'elle parte au STO, donc au service du travail obligatoire, ou soit simplement qu'elle partage ce magnifique slogan « Travail, famille, patrie », qui est toujours plus ou moins à l'ordre du jour, d'ailleurs, si on regarde un peu les choses. Voilà. Et puis, sachant que ce qui s'est passé en France, ça s'est passé ailleurs. Alors, trois exemples rapides. Les Jeunesses Balilla en Italie, qui sont fondées en 1926 par les fascistes italiens et Mussolini. Les Jeunesses hitlériennes, j'y reviens pas, qui sont fondées, elles aussi, en 1926 et jusqu'à 1945, pour encadrer militairement la jeunesse allemande. Et puis, pour passer de l'autre côté du mur, les jeunesses communistes comme Sol, qui sont fondées en 1918 par le parti bolchevique, sont aussi une façon d'encadrer la jeunesse et de lui faire partager un certain nombre de valeurs qui ne sont pas les miennes. Voilà. Christian.
Ouais, donc on saute un peu dans le temps et on va passer au protocole dit Ernus-Avary. Donc pour ceux qui sont un peu plus jeunes que moi, peut-être qu'il faut y compris préciser qui sont Ernus-Avary. Donc c'est 1982, donc Ernus est ministre, je crois, de la Défense à sa place, moi, comme les trucs ont changé entre Défense, Armée, machin. Ministre de la Défense et Savary, ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est 1982, donc c'est loin d'être neutre la date, puisque c'est le gouvernement dit de gauche, gouvernement majorité du Parti socialiste, avec participation quand même aussi au gouvernement, je le dis, du Parti communiste, donc de la gauche, voilà.
La gauche parlementaire.
C'est pour ça que je disais dit de gauche aussi, on peut le dire, voilà. Et donc, 82, donc, c'est le premier protocole armée-éducation. C'est dans une période où il y a à la fois encore sur la lancée, on peut dire, des années 70, tout ça évidemment schématique, mais quand même un mouvement, des mouvements antimilitaristes, contre la militarisation, etc., qui existent, qui en partie commencent à refluer aussi, y compris pour des considérations, d'ailleurs, j'allais dire... générationnel. Et par exemple, 82-83, enfin, le début des années 80, c'est aussi le moment où sont régularisés en fait toute la partie des objecteurs de conscience qui étaient insoumis, qui se retrouvent régularisés, voilà, le terme officiel étant, ils sont réputés ayant fait leur service national, sans avoir fait rien du tout, ni service national actif, ni service civil, etc. Je précise ça parce que ça veut dire que c'est aussi dans une période où il y a à la fois, on est sur la lancée, effectivement, comme je le disais, des mouvements contre la militarisation, des mouvements antimilitaristes, etc., des années 70, mais en même temps, avec un petit reflux. Et, voilà. Et donc, septembre 82, puisque la date officielle, c'est 23 septembre 82, c'est la signature donc, de ce protocole armée-éducation, donc, qui prévoit... comment le dire autrement, que l'entrée de l'armée dans l'école, à travers donc des choses qui, à l'époque, paraissaient, en tout cas nous paraissaient, hallucinantes et qui malheureusement sont devenues un peu plus naturelles, je pense, au fil des années. Mais ça, c'est...
Naturelles, peut-être pas.
C'est la question culturel. Du rapport des forces, oui, pardon. habituel. Voilà. Mais c'est la question du rapport de force, quoi, avec effectivement une place donnée à l'armée dans le fonctionnement de l'école, c'est y compris les interventions en tant que telles de militaires dans les écoles et un certain nombre de ce qu'on pourrait appeler d'opérations publicitaires, quoi, pour l'armée, bon, ce qu'on connaît, pour présenter tout l'intérêt de rentrer dans l'armée aux jeunes, etc., etc., évidemment, avec toute la question du chômage, et donc c'est un débouché, etc., et l'armée te formera, etc., etc. Ce qui est relativement... Alors, j'ai repris, hein, pour réviser un peu, j'ai repris y compris des documents, enfin, des documents d'époque, là, militants. Ce qui est intéressant, donc, je disais, c'est le protocole, c'est 82, et dans un document qui a un truc que certains et certaines doivent connaître, qui s'appelait Ramassis d'infos sur la militarisation de l'enseignement, qui était un peu un truc unitaire, on va dire, sur cette question-là. Ce qui est expliqué, et donc qui est des années 90, au tout début des années 90, ce qui est intéressant... C'est donc la mise en œuvre de ce protocole, donc je le disais, gouvernement Parti Socialiste, Parti Communiste, 82, avec cette mise en place donc de 82 à 86. Alors, petite parenthèse, parce que 86, la dite gauche parlementaire perd la majorité, donc 86-88, on est toujours sous la présidence Mitterrand, mais c'est un gouvernement... dit de droite, voilà. Et en fait, et c'est très rigolo, parce que, enfin, rigolo, je sais pas, là encore, si c'est le bon terme, c'est sûrement pas le bon terme, mais les camarades qui écrivaient ce truc en question disent, en fait, 86-88, bon, le protocole, il est un peu tombé en désuétude, parce que c'était pas le souci, en fait, c'était pas le souci de la droite, quoi. Donc, c'est quand même assez, assez notable qu'on ait une dite gauche qui, sur cette question-là, en effet, bien plus que la droite, sur la question donc patriotique, etc., parce que c'est aussi là-dessus que repose le protocole, c'est toute l'histoire, effectivement, il faut redonner du sens à la patrie, etc., etc., quoi. Et il y a une relance, en fait, en mars 88, donc, enfin, en 88, pardon, pas en mars, mais en 88, qui, donc, après les nouvelles élections présidentielles, les nouvelles majorités dites de gauche, et où là, d'ailleurs, l'aspect... patriotique et encore plus puissant, puisque le ministre en question, c'est Chevènement, Jean-Pierre Chevènement, donc là, avec effectivement des trucs vraiment, j'allais dire, au premier degré sur l'aspect patriotique. Tout ça, ça amène quand même, évidemment, une contestation d'un certain nombre de forces syndicales, sociales, politiques, etc. Et il y a, et ça... Bon, je ne vais pas faire la transition tout de suite sur le collectif contre le SNU, mais ça laisse effectivement un peu rêveur aujourd'hui. Les camarades écrivent qu'à ce moment-là, il y a quand même 80 collectifs locaux contre les protocoles en France. Il y a quasiment... en tout cas, il y a une adresse de collectif local quasiment dans tous les départements, ce qui veut dire quand même quelque chose sur la dimension effectivement de lutte contre ces protocoles. Donc voilà un peu, c'est effectivement ces protocoles armée éducation, c'est ce qu'on va retrouver ensuite, alors sous des noms différents, et on aboutit au projet de service national universel donc de Macron il y a quelques années. Qui a pris des formes un peu différentes, mais pas tant que ça, en fait, au fil des années, quoi, des réajustements, on va dire, jusqu'à ce qu'on connaît pas, j'allais dire jusqu'à ce qu'on connaît aujourd'hui, mais justement, la particularité, c'est qu'on connaît pas, c'est qu'on sait plus, enfin, on sait plus trop où ils en sont exactement dans le projet, qui est pas du tout sur. En gros, le retrait par rapport à cette question-là n'est pas du tout sur des questions de volonté politique de ne pas l'appliquer, mais plutôt sur des questions de fric, en fait. Mais il y a ce lien, effectivement, très clair sur l'entrée de l'armée dans les écoles, l'école au sens large, hein, évidemment. Quoi. Je ne sais pas si...
Cassandre. Donc toi, tu es au collectif, ou tu étais dans ce collectif anti-SNU. Maintenant, c'est un collectif contre la militarisation de la jeunesse et de la société. Tu souhaites rajouter quelque chose ou nous dire comment ça se passe dans ton établissement du 94 ou les deux ?
Alors, peut-être dire qu'on a changé de nom pour dire qu'au-delà du SNU, qui a été une tête de gondole, qui a attiré les médias, alors ça a été un avantage, c'est qu'on a pu se mobiliser contre. Et maintenant qu'il n'est plus, on a senti une démobilisation. Mais l'idée sur laquelle on insiste un peu, c'est au-delà de ces dispositifs tête de gondole qui ont été très médiatisés, il y a une emprise concrète et financièrement viable de l'armée sur l'école. Après, au sein de mon établissement, j'ai pas énormément d'exemples, mais on avait essayé de recenser plusieurs choses ici et là. Enfin, si quand même, dans le forum des métiers qui a lieu tous les ans, ce qui est nouveau depuis 2 ans, c'est que l'armée, la gendarmerie et la police étaient clairement identifiés.
Ils ont des stands, quoi.
Ils ont des stands, ils sont en treillis. Alors, on m'a rétorqué que c'était dans leurs obligations. C'est pas quelque chose que j'ai vérifié, mais c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise.
C'est pour le charme de l'uniforme, tu sais ce que c'est.
Et donc, ils étaient dans l'amphi et les organisateurs, des collègues que j'apprécie par ailleurs, hein, étaient fiers de ça, mettre en valeur parce que c'est aussi une source d'emploi et parce que des jeunes sont intéressés. Il y a tout dans le travail qu'on a fait de cartographier tous ces dispositifs et de les disposer sur une grande affiche pour essayer de montrer toutes les intrications, mais en fait, difficile à... Enfin, la pelote de laine inextricable plutôt de tous ces dispositifs. Une partie de ces dispositifs était liée au lycée professionnel notamment, ou aux lycéens ou aux élèves les plus précaires qui n'arrivaient pas à coller dans le moule scolaire et qui se faisaient récupérer par plusieurs portes de sortie par l'armée. Il y avait les EPIDE notamment, des établissements... public d'insertion qui servent à récupérer ces publics précaires.
Oui, sachant que dans les EPIDE, c'était quasiment les gens qui étaient casernés.
Oui, avec l'idée qu'on va retrouver la règle, la discipline. Il y a une petite vidéo qui a circulé récemment avec un militaire qui dit que l'école a failli pour fédérer la nation et que des jeunes pouvaient trouver la cohésion qu'ils n'avaient pas trouvée dans l'école, mais avec des valeurs positives, hein, présentées comme telles en tout cas, de cohésion, d'entraide, de faire société. On a fait un travail beaucoup à travers le SNU et les autres dispositifs, il y a un effort de recrutement, on a besoin de chair fraîche, mais comme ça, le SNU, ce qui a été constaté, c'est qu'il y a eu un fort engouement, mais d'enfants dont les parents étaient pour l'un ou pour les deux pris dans des corps en armée. Donc c'est d'abord
enfants militaires, enfants de flics.
Voilà, donc c'est d'abord ceux-là qui ont répondu. Donc ça a envoyé un bon signe d'adhésion. Mais en fait, une fois qu'il a été question d'élargir, voire de généraliser, le mot a été prononcé plusieurs fois. Bah en fait, concrètement, il n'y avait pas d'adhésion assez forte pour aller vers cette généralisation et faire en sorte qu'elle soit réelle. Donc cet effort de recrutement, bah, s'est trouvé un peu arrêté. Et le deuxième biais qui est travaillé largement, c'est la séduction. C'est ce qu'on appelle l'esprit de défense. Ça a été évoqué dans la première table ronde avec le lien armée-nation. Il faut mettre, faut insérer l'idée de l'armée et de la guerre dans le paysage, que ce soit naturel, que ça fasse pas peur, que ce soit normal et que ce soit un débouché professionnel comme un autre notamment.
Et donc toi, Léonard.
Mais justement, sur la question de la normalisation, quand on regarde les dispositifs qui étaient mis en place pour favoriser le SNU, il y avait notamment les classes engagées, le label qu'ils avaient créé, qui était label pour les classes, mais pour les lycées aussi, enfin les établissements, qui donnaient des subventions. C'était un moyen un peu d'attirer les collègues peu scrupuleux à s'engager, enfin à
s'engager les élèves. Peu scrupuleux ou convaincus, il y a beaucoup de contractuels qui débarquaient isolés, oui. Qui ne connaissent pas, et que les proviseurs chopaient comme ça avec des primes de pacte.
Ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que il y a dans le label classe engagée, quand ils mettent en avant l'aspect défense, qu'ils mettent comme toujours en lien avec la mémoire, les commémorations du 11 novembre notamment, des choses comme ça, mais il y a aussi tous les aspects sur la question de l'environnement, le sport, héritage des Jeux Olympiques, ou des questions résilience et prévention des risques, c'est-à-dire des thèmes qui peuvent paraître plus large, enfin pas strict en sensu à l'armée, mais qui sont une occasion pour faire intervenir des militaires ou des corps en uniforme en général pour parler de ces sujets-là et les faire exister comme quelque chose de normal. On a besoin d'eux dans le quotidien, on a besoin d'une armée forte, d'une police forte, de pompiers forts. Voilà. Et bon, alors ce dispositif-là, classe engagée, vu qu'il n'y a plus le SNU qui est adossé, il a moins de sens, hein, il me semble qu'il n'existe plus. Mais moi, celui que je voulais présenter rapidement, c'est le classe défense et sécurité globale que j'ai la chance d'avoir dans mon établissement à Drancy, lycée. C'est un dispositif qui essaie de faire le lien entre les programmes et l'armée, via l'aspect mémoriel principalement, c'est ce qu'ils mettent en avant sur leur site. Mais aussi, dans mon cas, c'est parce qu'il y a une classe métier de la sécurité, donc ça s'adresse justement à les collègues qui portent ce projet-là, disent « Ah, c'est une opportunité bonne pour les élèves ». Bon, déjà, ils partent en étant métier de la sécurité, donc c'est pas... c'est sûr que c'est pas les filières qu'on préfère, mais on pourrait ne pas les diriger vers ça directement. Et ça, c'est difficile de susciter une opposition à ça. C'est-à-dire que même les collègues qui sont plutôt de gauche, même lutte ouvrière, j'en sais rien, on peut s'imaginer avec des convictions antimilitaristes pas feintes, disent bon, c'est minoritaire. Il y a une peur de s'opposer aux collègues aussi, de rentrer en conflit. Et donc, ce par quoi ça se matérialise, c'est-à-dire que c'est assez caché, enfin, c'est pas visible, quoi. Ils l'affichent pas dans tous les. Dans la salle des profs. Moi, j'ai mis un an dans l'établissement sans savoir. J'ai vécu un an dans l'établissement sans savoir qu'il y avait ce dispositif-là. Et je l'ai appris par la venue de la présence en salle des professeurs de militaires en uniforme qui venaient dans le lycée faire une intervention auprès des élèves pour leur présenter les métiers de l'armée de terre et avec des anciens élèves qui revenaient. Donc c'est-à-dire que ça marche, c'est-à-dire que les anciens élèves avaient intégré l'armée et venaient représenter leur filière dans le cadre du...
Peut-être, si je peux préciser le cadre de ce dispositif-là, donc classe défense et sécurité globale, une classe de collège ou de lycée est liée à une unité militaire locale pendant un an. Et il y a un contrat qui est signé. On avait vu passer une photo de militaires qui sont dans une salle de classe, en tribune, et qui signent le contrat. Enfin, c'est quelque chose de très formel. Et on va faire des cérémonies mémorielles, il y a des échanges. On voit comment on fait, on forme les chiens et tout.
Et j'ai l'impression que, du coup, j'ai un peu regardé avant de venir. C'est un dispositif qui existe depuis 2005. Et jusqu'à l'année dernière, sur le site de l'Éducation nationale, ils annonçaient 500 classes défense en France. Ce qui est relativement peu, vu le nombre de classes qu'il y a dans le lycée. Mais là, j'ai regardé sur le site du ministère de la Défense. Et ils annonçaient qu'il y en avait, au premier trimestre 2025, donc cette rentrée-là, il y en avait plus de 1000 annoncées, enfin... en créé ou en création, en cours de création. C'est-à-dire que j'ai l'impression que c'est un peu, enfin, en tout cas, un des dispositifs pour développer ce qu'ils appellent les relations armées-population, qui trouvent suite à la fin du SNU, quoi.
Ouais. Donc c'est quand même intéressant, ça s'appelle classe défense quand même. Hein. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais Trump, il avait un ministère de la défense, il l'appelle maintenant ministère de la guerre. Alors peut-être que c'est classe défense dont viendront les classes de la guerre.
Mmh. Bah, oui, oui. Et dans le nom, il y a sécurité globale qui reprend le nom des différentes lois sécuritaires qu'on retrouve ces derniers temps. Mais, sur ce lien entre population et forces armées répressives en général, je voudrais évoquer rapidement un petit cas qui a eu lieu au Blanc-Ménil. Parce que je l'évoque parce que je pense qu'il est important, parce qu'il peut y avoir des suites. C'est-à-dire que c'est dans le collège Descartes, une intervenante est venue faire des cours d'éducation à la vie affective et sexuelle, relationnelle et sexuelle, qui est un dispositif qui existe depuis longtemps, mais qui n'est pas du tout réellement mis en place par manque de moyens et d'implication par manque de moyens principalement, et de temps dédié à ça. Et donc, il y avait cette intervenante qui venait faire des cours sur le consentement et tout ça aux élèves, mais qui se trouve être une agente de la BAC, de la Brigade Anticriminalité. Oui, la surprise quand on l'a appris. Ça, ça a été la surprise aussi pour les collègues qui travaillaient là-bas, puisqu'ils à aucun moment n'avaient été prévenus de cette... ça n'avait pas été voté au conseil d'administration, ça n'avait pas été annoncé autre mesure. C'était une initiative du chef d'établissement en lien avec la mairie. Et alors, suite à cette déconvenue, les collègues sur place sont mobilisés, ont écrit des communiqués, ont été... ont convenu avec le chef d'établissement qu'il n'y aurait plus cette intervenante pour les prochaines sessions. Sauf que ce qui se trouve, c'est qu'ils ont appris en cherchant que cette ancienne flic de la BAC a été détachée pour travailler avec la mairie. Donc la mairie va sûrement vouloir s'en resservir, enfin, ne va pas employer quelqu'un à ne rien faire, et donc elle sera probablement amenée à réintervenir dans d'autres établissements du Blanc-Ménil ou alentour.
Sachant qu'on connaît les pratiques de la BAC, et particulièrement dans les banlieues populaires, auprès des jeunes gens qui ne sont pas tout beaux, tout blancs, avec des beaux yeux bleus, quoi, hein. Ils sont très chasseurs de faciès.
Peut-être pour compléter, pour élargir, il y a beaucoup de choses qui se font avec des collègues de bonne foi et qui sont cachées, quoi. On reçoit un mail... Enfin, on reçoit des sollicitations, par exemple, pour certaines visites, pour de la formation, pour des concours. Alors, dans notre cartographie, on a pas mal de concours en école élémentaire. Sur le mémoriel, alors c'est un des thèmes très porteurs, avec l'écologie et l'égalité femmes-hommes aussi, c'est une voie d'entrée intéressante. Donc, l'enseignant peut faire un concours sur la mémoire, le soldat de 14.
Enfin, donc, avec sa classe, quoi.
Avec sa classe.
Sa classe sur un projet de ce type-là.
Voilà, il y a des noms très mignons, comme par exemple les bulles de mémoire, c'est réaliser une bande dessinée sur un thème mémoriel. Et donc, des collègues se retrouvent embringués de bonne foi dans des projets qui sont intéressants sur le fond. Et in fine, ils se retrouvent... Enfin, il y a des anecdotes comme ça de gens qui se retrouvent encadrés par l'armée parce qu'ils font une intervention. Et en fait, c'est une anecdote où un collègue avait travaillé sur des photos, une expo photo de la Grande Guerre, et il se retrouve dans un colloque avec que des militaires, en fait. Alors, il y a des collègues convaincus et ou qui vont s'accommoder d'eux, mais il y a aussi beaucoup de fils qu'on tire... qui ont l'air intéressants, et on se retrouve avec un logo de l'armée pas loin, en fait, sans l'avoir du tout vu d'abord, sans en avoir eu conscience, etc.
C'est une très bonne tactique, d'une certaine manière, de réussir à infiltrer.
Exactement,
infiltration, quoi. D'autres faisaient de l'entrisme autrefois, bah là, l'armée fait de l'entrisme à l'école.
Tu voulais ajouter quelque chose de l'armée? Oui, sur la question de l'entrisme... Enfin, ils essayent d'entrer assez... l'école primaire, c'est-à-dire que j'ai regardé justement sur le site du Trinomane Académique, c'est une autre instance, enfin, c'est un Trinomane Académique, c'est une... dans chaque académie, il y a une relation entre l'armée, l'éducation nationale et le ministère de l'Agriculture, localement. Alors, ministère de l'Agriculture, j'imagine pour les lycées agricoles, enfin, en raison de... Voilà, l'éducation, c'est la principale, mais en tout cas, ceux qui sont les plus actifs, c'est en tout cas, c'est l'armée et l'éducation qui sont... sur celui de l'Académie de Créteil... ils annonçaient, par exemple, un espèce de programme, enfin, pas de programme, mais de conseils, d'interventions possibles à chaque âge. Ils disaient, par exemple, en CE2, faire des interventions avec la police et ou l'armée pour montrer les différents cas où ils peuvent chacun intervenir, pourquoi on a besoin des pompiers, de la police, de l'armée, dans quelle situation, les numéros de téléphone, des choses comme ça. Des choses plus classiques liées sur la mémoire. Et il y a un point que je trouvais intéressant à soulever, c'est-à-dire en CM2, CM1, je ne sais plus, ils conseillaient de faire un cycle sur l'engagement. Et dans l'engagement, il mettait armée, justice, police, éducation. C'est-à-dire qu'il regroupe les quatre, comme tout corps de fonctionnaires, enfin assimiler le travail pour l'État, le travail pour l'armée. Enfin, c'est la même chose, un travail comme un autre, c'est une fonction comme un autre. Et à l'envers aussi, du point de vue du travail de l'éducation, l'enseignement, bah, l'éducation doit être aussi une fonction, enfin à ses fonctions disciplinaires, à ses fonctions de et penser, enfin que les professeurs se mettent à se penser comme ça, quoi, comme relais de ça, ou comme on est dans la continuité de l'armée ou de,
ouais. D'autres. Ouais, c'est quand même très très inquiétant, d'autant que vous avez vu que le budget de l'armée est considérable aujourd'hui, on est en pleine crise sociale, et il y a 540 milliards qui vont être injectés dans l'industrie de guerre, quoi, qui pourraient effectivement plutôt être injectés dans l'éducation sans ces gens-là.
Ceci dit, il faut faire attention, parce que, alors je ne sais plus les dernières années, mais le SNU... Le SNU était financé à travers le budget de l'éducation nationale. Hein, donc, ouais. C'est pas que.
Et par ailleurs, avec un encart dans la loi de programmation militaire, il y a une sorte de pont qui se faisait, mais le budget était celui de l'éducation nationale. Oui.
Mais c'est les questions, c'est souvent, ça revient à ça, les questions du budget. Enfin, c'est ce que tu disais, pourquoi des collègues se retrouvent embrigadés dans ça. C'est-à-dire, moi j'avais des collègues d'EPS qui voulaient faire des projets.
EPS, c'est la gym.
Oui, éducation physique et sportive. Et qui, au moment des JO, bah, il se trouve que l'armée proposait beaucoup de choses. Enfin, on remet, on mélange un peu toutes les bouillies.
Oui, le truc, c'est l'histoire c'est banaliser, en fait, de banaliser l'armée, la chose militaire, etc., au maximum. Quoi. Ouais. C'est ça la recherche. Quoi. Ouais.
Voilà, à la fois la banaliser et puis la faire accepter comme présente dans tous les moments de la vie, du plus jeune au plus ancien, quoi. Voilà. Vous avez d'autres choses à ajouter ou on demande à la salle éventuellement de participer et de nous apporter quelques éléments complémentaires? Cassandre, tu as envie de dire un mot?
Petites anecdotes, peut-être. Au niveau des mairies en élémentaire, ce qui peut être convoqué souvent, c'est le centre de formation Prox RED, qui dépend du RED et qui peut faire des interventions.
Le RED, c'est?
Eh bien, ça veut dire quoi?
Intervention, c'est des brigades d'intervention de la police
Oui, c'est des corps de spécialistes des tueurs à gages, quoi.
Et donc Prox RED, c'est pour travailler la proximité avec des jeunes enfants. Et donc ils vont dans les gymnases et pendant une journée, on n'a pas à s'occuper d'eux parce qu'ils font de la prévention, ils montrent comment travaillent les chiens qui reniflent la drogue, etc. Et ça, c'est pareil, les enseignants peuvent être sur le papier, la directrice, le directeur dit « Ah bah, on n'a qu'à faire ça une journée, c'est intéressant, il y a plein de choses, voilà. » On se laisse avoir comme ça. Et pour ne pas l'oublier, je voulais en parler, il y a une plateforme numérique qui s'appelle « Tous en stage ». Qui proposait aux élèves de 3e, mais aussi de 2e, qui doivent faire leur stage professionnel, dont on ne sait pas trop ce qui va devenir, parce qu'il était en partie lié au SNU, mais qui existe toujours. Et moi, en tant que prof principal de 2e, je vais devoir, sans trop de zèle, mais je en ai parlé, j'ai déjà dit aux parents que ce n'était pas la peine de s'inquiéter s'ils n'avaient pas de stage, mais bon. Il y a la plateforme Tous en stage. Quand on ne trouve pas de stage, on va sur Internet, Tous en stage. Et là, vous regardez les logos, c'est terrible. C'est les grandes entreprises qui proposent des stages collectifs. Et c'est le ministère de l'Armée, des Armées, pardon, il s'appelle actuellement comme ça, je crois, qui propose des réelles offres de stages passionnantes dans des cadres sympas. C'était pour l'anecdote.
Non, c'est pas qu'une anecdote quand même. Ça veut dire qu'ils sont très proactifs. Pour soit ils viennent dans l'école, soit ils accueillent l'école. Quoi.
Ils sont très présents sur les réseaux sociaux favorisés des jeunes, ce qui n'est pas mon cas, par exemple. Mmh. Donc, dans cette avance-là aussi.
Oui. Je crois qu'il y a...
Sur la question des stages de 2e, je voulais ajouter sur le fait que le SNU, il avait aussi cette fonction de discipliner et d'occuper. Il y a une peur un peu, je pense, de la jeunesse qui a du temps libre, qui fait autre chose que même l'école. Et que, notamment, je pense que c'est venu, notamment, si on se rappelle, un peu après la question des émeutes de banlieue.
Juin 2023, Macron dit...
Après la mort de Naël. Et c'est pas à ce moment-là, il y avait vraiment un renfort de la place du SNU et des stages de 2e.
Pour occuper les jeunes, sinon qui brûlent les voitures si on s'occupe pas d'eux.
Et une autre expérimentation qui avait commencé à cette époque-là, qui était la question des uniformes dans les écoles, continue d'être en activité. Et si j'ai regardé en avant de venir le site de l'Éducation nationale, qui annonce toujours une possible généralisation en 2026. Bon, on n'y croit pas, parce que là j'ai regardé, il disait qu'il y avait une centaine ou 120 classes en France qui le pratiquent.
Établissement.
Donc ce qui est déjà un peu plus, ce qui est beaucoup plus, mais quand je regarde 120 établissements, je crois qu'il y a 90 primaires, une dizaine de collèges, 2-3 lycées, et même par rapport à ceux qu'il avait fait l'an dernier, il y en a plusieurs qui ont arrêté. Enfin, ça n'a pas l'air de prendre, non. Mais en tout cas, il persiste avec cette expérimentation.
sous prétexte d'égalité d'ailleurs, hein, c'est toujours la même chose. C'est pour dire qu'ils seront tous habillés pareil, mais on sait très bien qu'ils n'auront pas les mêmes pompes. On sait très bien que certains auront des uniformes peut-être un peu défraîchis, tandis que d'autres en auront parfaitement rutilants. Et on verra bien la différence de classe, ou au moins la différence de moyens. Derrière la blouse grise, on a toujours su qui était riche et qui ne l'était pas. Je crois qu'il y a un autre copain là du collectif SNU. Anti-SNU, pardon.
Oui, alors moi j'avais trois petits points. Alors sur les Trinom Académiques, il me semble que c'est un représentant des armées, un de l'éducation nationale, et troisième, c'est l'Institut des hautes études en défense nationale. Mais effectivement, des fois, le ministère de l'Agriculture est aussi représenté. Mais bon, à vérifier, mais il me semble que.
Pour les lycées agricoles, ouais, spécifiquement.
En tout cas, à Créteil, moi sur le site, ils mettent en avant l'éducation.
Oui, mais parce que des fois, il y a d'autres ministères qui rentrent dedans. Ensuite, parce qu'au tout début, il a été mention du scoutisme, pour préciser que, bon, aujourd'hui, ça a quand même. Il y a eu différentes branches du scoutisme qui ont évolué de façon un peu différente, mais défendre une partie du scoutisme. Les éclaireurs et éclaireuses de France aujourd'hui ont fait un communiqué pour dire qu'ils étaient contre le SNU. Non seulement ils ont fait ça, mais en plus ils ont refusé de fournir ni de relayer le SNU qui cherchait des animateurs et qui en cherchait notamment vis-à-vis des associations de scoutisme. Les éclaireurs et éclaireuses de France ont refusé de relayer ça, et ils ont refusé de prêter des terrains. Donc ni des animateurs, ni des animatrices, ni des terrains. Et peut-être que ça participe aussi au fait que le SNU a été abandonné, c'est qu'ils avaient du mal à trouver des terrains. Et à un moment où les éclaireurs et éclaireuses de France étaient en difficulté financière et où le SNU proposait beaucoup d'argent de subventions. Donc c'était une décision, je pense, quand même, qui était courageuse. Et par ailleurs, dans le collectif contre le SNU, au départ, il y avait aussi l'Allume-feu, qui était un journal scout d'inspiration libertaire, qui avait signé, qui aujourd'hui n'est plus trop en activité, il va peut-être se relancer, mais voilà. Dernier truc, c'est que sur l'éducation, là, on a parlé beaucoup de l'école, mais il y a aussi tout ce qui est hors de l'école qui existe aussi pas mal, et il y a en fait tous les secteurs de la culture, l'armée, il y a un rapport, vous pouvez aller voir le rapport de Christophe Blanchet et Martine Etienne, de rapport parlementaire, et ils expliquent comme ça tous les secteurs de la culture qui sont où l'armée essaye d'investir. Il y a tout, hein, le cinéma, les musées,
la littérature,
les jeux vidéo, la BD, tout est investi, et en fait toutes les associations aussi d'anciens combattants, de mémoire, etc. Tout ça, c'est aussi, ils font aussi partie de cette boucle là. Et moi, dans le groupe justement des éclaireurs et éclaireuses de France dont je fais partie, on a été approché par l'Office national des anciens combattants pour venir parler de la guerre d'Algérie, par exemple. Voilà, donc tout ça, ça se fait aussi hors de l'école, sur plein de sujets.
Rappelez que les éclaireurs de France, c'est un mouvement scout laïque.
Exactement.
Qui a été créé justement pour le distinguer du scoutisme catholique, musulman ou éventuellement juif. Quoi. D'autres interventions ?
Moi, j'avais envie d'intervenir là-dessus. Je m'éloigne de ça. Pour évoquer ce qui me surprend un peu dans cette affaire, c'est et Hugues, qui s'est beaucoup intéressé aux pédagogies alternatives, éducation intégrale, ce genre de Paul Robin, Ferrer, tous ces pédagogues, me contredira sans doute pas. Mais c'est-à-dire que on avait le sentiment que l'école actuelle, l'éducation, c'était quand même un peu inspiré de ces pédagogies innovantes, bien que déjà anciennes. Et puis là, tout d'un coup, ce qu'on peut réaliser, c'est que finalement, il semble que ce que peut apporter l'armée et la défense, c'est aussi une pratique éducative acceptable. C'est pas pour l'éducation nationale, hein, pas tout le monde. Et il semble quand même aussi que beaucoup d'enseignants n'y trouvent pas trop à redire. Enfin, voilà, je vous interroge aussi là-dessus pour avoir un peu le sentiment là-dessus. J'avais le sentiment, moi, quand j'étais collégien ou lycéen, j'étais peut-être tombé dans des nids de révolutionnaires. Mais en tout cas, que ce genre d'initiative serait arrivé, il serait mis en grève directe, quoi. C'était impossible. Et là, j'ai l'impression que ça passe un peu crème, quoi. Moi, ça me surprend beaucoup, en fait.
Tu veux dire quelque chose, Cassandre, non ?
Moi, j'ai l'impression qu'il y a une dépolitisation large du corps enseignant. Il y a une précarité forte dans l'Académie Créteil qui a été mentionnée tout à l'heure. Il y a une forte part de contractuels et qui est en hausse. Donc, c'est des gens qui ont besoin de manger. Donc, pourquoi pas, ils peuvent enseigner. Et donc, ça désolidarise le corps qui peut réagir. Et puis, il y a beaucoup de résignation aussi, je crois. Le manque de moyens fait qu'on est sur des choses très basiques, très concrètes, et que déjà, si on arrive à faire des cours dans de bonnes conditions, sans avoir à remplacer de courte durée, sans avoir à signer des parts de pacte, on est content. Donc, je suis pas étonnée que ce que tu as vécu quand tu étais... Ça fait pas longtemps, quand tu étais jeune garçon. Mais je suis pas étonnée que c'est changé. Et sur ce que tu disais, les pédagogies nouvelles qui ont été intégrées par l'Éducation nationale, ça, j'y crois absolument pas. Moi, je les ai approchées un peu par le biais syndical, par l'interpersonnel, quoi. Mais elles n'ont pas d'existence... elles ont une existence marginale. Elles n'ont qu'une existence marginale dans l'éducation nationale et de façon récupérée souvent, je pense au mot coopération qu'on peut voir à différentes sauces bien sucrées, mais enlever du contexte d'un freiné par exemple, utilisé pour dire voilà, on s'entraide et c'est pas plus mal, hein, mais c'est pas au service d'un système d'école intégrale d'émancipation.
Et, et d'un projet politique et social,
voilà.
Autour de Freinet, oui. Ou autour de Ferrer.
Donc, dans une certaine mesure, on reprend certains mots qui peuvent être récupérés par le système néolibéral, pour dire vite, on va dire. Mais par contre, si on va très loin, il y a de la répression. Il y a des cas de répression qui ont eu lieu vis-à-vis d'enseignants qui pratiquaient et qui assumaient complètement des pratiques freinées, notamment, je pense que j'ai un cas en tête, ou des écoles entières qui sont mutées dans l'intérêt du service, voilà, ou un collège entier à Aubervilliers qui a été... expérimenter quelque chose, et un courrier du recteur a suffi à dire « bon, vous êtes bien amusé, ça suffit maintenant ouais. », et on redevient un collège sous tutelle normal, ouais. Quoi.
Comme la fermeture du lycée autogéré de Paris aussi, hein.
Oui,
c'est encore un autre exemple, ça.
Pourrait, faut pas trop lister des choses.
Tu veux dire à moi, puis après, Hélène, tu prendras
ouais, pour revenir sur la question de l'apathie du personnel dans les établissements, je pense que ce qui se passe... Là où ils ont été intelligents, c'est qu'ils ne l'ont pas imposé. C'est-à-dire que ce n'est pas la généralisation du SNU, c'est sur la base du volontariat. Et il se trouve qu'il y a toujours quelques... Enfin, il suffit qu'il y ait un, deux collègues qui soient volontaires pour que ça se fasse. Et ça se fait un peu discrètement. Je veux dire, on n'est pas chacun dans les salles de classe les uns des autres. Donc, on met du temps à s'en rendre compte. On le sait après, parfois. Et donc, on peut en discuter, se fâcher avec quelques collègues. Mais ça... C'est compliqué de... Et aussi, les collègues... Et ceux qui se mobilisent généralement sur d'autres questions ou sur ces questions-là, peuvent se dire, bon, il y a un peu une minimisation de la chose, de dire, c'est pas si grave, ça marche pas vraiment. Mmh. Les élèves, c'est vrai que les élèves, ça, ils accrochent pas tant que ça. Enfin, il y a pas comme vous dites, les questions de volontaires pour la SNU, il y en a quasiment pas. Enfin, moi, j'en ai vu quasiment aucun. C'est pas... Donc, les collègues ne s'engagent pas, ne se mettent pas en jeu pour ça, quoi. Ne veulent pas faire grève pour ça. Déjà qu'on a du mal sur d'autres questions, comme je disais, plus urgentes, mais voilà. Enfin, plus urgent, à leurs yeux, mais... Mais... C'est vrai.
Moi, je voulais peut-être aller au-delà, mais je ne sais pas si vous pouvez répondre. Quand on parle de la militarisation de la jeunesse, là, vous êtes des enseignants. Après, ces jeunes, une partie de ces jeunes iront à l'université, iront dans des écoles, des grandes écoles et tout ça. Est-ce que ça ne risque pas de formater totalement autrement l'enseignement supérieur? Voilà, c'est... Alors, peut-être qu'il n'y a pas une emprise forte, enfin suffisamment forte aujourd'hui chez les jeunes pour que dans, allez, 4-5 ans, on puisse le voir dans l'enseignement supérieur. Mais est-ce que vous avez aussi réfléchi à ça, ou est-ce que vous avez des données, est-ce que vous avez des infos? Voilà.
Pour l'instant, l'enseignement supérieur est plutôt protégé de ces choses-là, d'autant qu'il y a encore des mouvements étudiants qui bougent quand il y a des choses de ce type-là qui arrivent dans les établissements.
Je pense que la réponse était dans votre question. j'aurais pas trop les choses en tête, mais dans notre cartographie, il y avait l'encart supérieur. De mémoire, c'était le SMV, Service Militaire Volontaire, qui prenait la suite de 18 à 25 ans, et donc qui pouvait permettre de faire un service militaire dont je n'ai pas les détails en tête, à moins que je les retrouve en moins de...
30 secondes.
Le service militaire volontaire, parcours d'insertion professionnelle de 8 à 12 mois en caserne avec des stages dans les secteurs en tension, soudure, cuisine collective, sécurité. Les volontaires doivent être français, résider dans l'Hexagone. Et il me semble que c'était 18-25 ans, moi je le confirme. Et puis dans les différents dispositifs...
C'est pas vraiment l'enseignement supérieur quand même, la cuisine et...
C'est
des jeunes adultes, mais c'est pas l'enseignement
supérieur. Qui n'ont pas trouvé de débouché. C'est vrai, j'étais un peu à côté. Mais dans les dispositifs, il y avait beaucoup de choses comme des financements de thèse, par exemple, et des associations disciplinaires type histoire-géo qui approchaient des étudiants. Et donc, selon le sujet de la thèse, on pouvait obtenir des bourses. Je veux pas dire de bêtises, mais... Ouais, les cadets de la défense, c'était... Bon, il y avait des approches dans le supérieur quand même. Je ne ferai pas la démonstration la plus parfaite aujourd'hui, mais il y a des choses. Et puis, je pense que c'est un mouvement global de la société qui fait que ça se... Voilà, si on parle de l'armée très, très tôt, voilà, ça va être plus logique. Bon, bref.
Christian, tu voulais ajouter un mot ?
Oui, mais c'est rebondir sur cette question, là, enseignement supérieur et recherche, parce que j'ai sous les yeux, là, le... En fait, ce qui était du point de vue des signataires, donc en fait du ministre de l'Éducation nationale de l'époque, qui était d'ailleurs Lionel Jospin, et du ministre de la Défense Chevènement, c'est au moment où ils ont signé le deuxième justement protocole d'accord armée-défense. En même temps, il y a un recto verso qui fait un peu un espèce de bilan en fait du premier. Et il y a 4-5 points, et un des points, c'est enseignement supérieur recherche. Donc ça montre en tout cas... Ça fait un moment que c'est effectivement de leur souci à eux qu'il y ait ce lien, y compris sur l'enseignement supérieur et recherche. Et là, en l'occurrence, c'était écrit, bon, je ne vais pas tout citer, mais en France, les centres d'enseignement supérieur et de recherche spécialisés sur les questions de défense, stratégie, économie de l'armement, sociologie des armées, histoire, etc., sont insuffisamment développés. Et donc, c'est bien que l'éducation rentre là-dedans. Enfin, là, pour le coup, c'est quasiment l'inverse. C'est bien que l'éducation s'en mêle pour aller chercher ce qui concerne la défense, l'armée, pour l'intégrer à l'éducation. Les autres points, juste, pareil, hein, je ne vais pas citer, mais vite fait, parce qu'on verra qu'il y a vraiment une suite au fil des années, quoi. Les autres points, c'était l'information sur le service national et les carrières militaires. Donc, ça rejoint une partie des choses que vous avez dites avec la recherche que l'armée rentre dans l'école pour... Enfin, ce que je disais tout à l'heure, opération publicitaire. Bon, le point 2, qui est de fait, qui tient plus aujourd'hui, c'était la formation dans le contingent, donc sur les appelés.
Oui, avant le service militaire, supprimé par Jacques Chirac.
Voilà. Point 3, c'est les jeunes au service de la formation. Donc, c'est les jeunes, en fait, de l'armée. Ça rejoint encore des choses qu'on retrouve dans le SNU et dans les projets actuels. C'est les jeunes. Alors, en l'occurrence, c'était des jeunes appelés, puisqu'il y avait cette ressource en capacité, selon leurs critères à eux, en capacité d'aller donner la bonne parole, là encore, de l'armée dans l'éducation nationale. Et point 4, c'était la formation des enseignants et des enseignantes aux questions de défense. Et on en revient toujours au même truc. Et il y avait un sixième point que vous avez évoqué sur les modalités les plus faciles, entre guillemets, pour eux de faire entrer la question armée, etc. Il y avait un point 6, activité physique et sportive, et qui était déjà sûrement, de leur point de vue aussi d'ailleurs, quelque chose de repéré comme une facilité, puisque ça faisait l'objet même d'un texte à part uniquement sur cette question-là, quoi. Donc,
Cassandre ?
Alors, petite précision, il a été fait mention du service national, mais qui n'est pas supprimé, mais qui est bien suspendu depuis 1997. Donc, il peut être réactivé si on en a l'envie. Et pour le supérieur, j'ai retrouvé captation de la cartographie qu'on avait faite, dont je n'aurai pas de détails, mais pour vous donner quelques intitulés, il y avait des partenariats avec l'École du Louvre, il y avait des classes prépa talents, il y a des stages conventionnés, pour le cursus universitaire, il y a un prix d'histoire militaire, ça c'était, il me semble, c'est lié à des thèses. Des allocations de thèses en histoire.
Il y a peut-être des thèses qui sont dans l'enseignement public, mais il y a aussi tout un organisme de recherche au sein même de l'armée qui distribue des grades. Hein, donc les thèses sur l'armée sont peut-être faites déjà dans le cadre de l'Institut supérieur de la défense ou quelque chose comme ça.
On
va vérifier, quoi.
C'est probable.
Oui. Moi, j'avais fait des études de mathématiques, un prof de mathématiques, et j'avais fait des stages de recherche, et ça arrivait souvent que des laboratoires entiers soient classés secret défense. Enfin, c'est-à-dire qu'on se retrouve assez vite, alors qu'on fait un sujet qui n'a rien à voir. Enfin, on se retrouve. Et ça, ils le font parce qu'il suffit qu'il y ait un ou deux bureaux qui travaillent sur des sujets un peu sensibles, et ça vient avec un financement. Donc, ils acceptent, on a le financement, donc on labellise tout. Enfin, ça change des protocoles. Enfin, du coup, on ne fait pas les stages là, mais ça change. Voilà. Mm. Ça arrive très vite. Et sur les questions de l'information, dans le supérieur, je suis jeune enseignant, donc je suis passé par l'INSPE il n'y a pas si longtemps que ça.
Et c'est quoi ça, l'INSPE?
C'est l'Institut National de Formation des Professeurs. Ouais. Je ne sais plus l'acronyme à quoi il correspond exactement. Mais,
des professionnels de l'éducation.
Professionnels de l'éducation, voilà. Mmh. Et donc qui forment à partir du master, M1, M2. Ou parfois après le concours pendant un an, mais en tout cas il y a au moins tout le monde passe au moins à peu près un an par là. Et alors moi je l'ai pas expérimenté, mais j'ai vu en faisant des recherches qu'il y avait des partenariats entre certaines ISP et le ministère des Armées pour préparer à la formation des questions. Et il me semble que c'était sur un site de professeurs d'histoire géographie, enfin d'inspecteurs d'histoire géographie. Donc c'est plus à mon avis sur les questions mémoire et choses comme ça, mais où ils présentent les dispositifs.
Bah, l'histoire géo est une des matières très, très privilégiées pour l'entrisme, oui.
Des questions dans la salle, des remarques?
Justement, enfin, je voulais revenir là-dessus, parce que tu parles de l'histoire géo. Il me semble qu'il y a justement une forme au-delà des pratiques, un peu stage, un peu fun, découverte et tout ça. Et il me semble qu'il y a quand même la tentation, enfin, c'est pas que la tentation, mais la mise en place de moments dans lesquels les militaires peuvent intervenir pour tenir des discours ou établir des récits, qu'on pourrait dire, alternatifs sur l'histoire, sur peut-être les bienfaits de la colonisation, je donne des pistes un peu comme ça, hein, mais on sent bien qu'il y a, puisqu'il y a quand même les militaires ont aussi tout un panel d'historiens et de gens qui continuent à payer et qui peuvent faire des recherches facilement, et donc il y a une tentation aussi de s'engouffrer dans cet aspect plus politique, psychologique, d'apporter des récits autres.
Oui, mais sachant aussi que l'histoire a toujours été plus ou moins travaillée par ces questions-là. Hein, puisque quand on regarde les programmes d'histoire et quels étaient les personnages importants dans les livres d'histoire, c'était très souvent des guerriers, des guerres, des choses comme ça. Voilà. Hein, et c'est ces gens-là aussi qui ont construit le roman national autour d'une France mythique qui n'a sans doute jamais existé. Quoi. Donc je pense que l'histoire est très fragile sur ces questions. T'es prof de quoi, toi ?
Moi, de lettres classiques, mais alors je connais pas bien les programmes d'histoire, mais ce que j'avais entendu de la part de mes collègues, c'est que surtout avec le ministère Blanquer, il y avait un retour en arrière fort, quoi, pour revenir, alors pas officiellement au roman national, mais effectivement à une vision militariste de l'histoire, et évidemment, il y a des passages de l'histoire qu'on ne traite pas, enfin, il y a une sélection, un parti pris très fort, et les professeurs d'histoire sont, quand ils sont antimilitaristes, ils ont bien du mal à les tordre pour pas faire de la propagande pure, quoi.
Et puis on a bien vu que dans un certain nombre de pays aujourd'hui, que ce soit chez Poutine ou chez Donald Trump, pardon, mais c'est la même chose, c'est la même clique, ils ont tendance à faire réécrire le livre d'histoire, hein, dans le sens d'une militarisation ou d'un nationalisme plus ou moins affirmé, quoi. Donc l'histoire, ils sont fragiles, quoi, je pense, les historiens, de ce point de vue-là.
Oui.
D'autres interventions?
Non, moi, je reviens sur un truc, parce que sur le bilan qu'on fait, notamment sur ce qu'on dit sur les enseignants, enseignantes, et que... Enfin, qu'il ne se passe pas grand-chose contre, quoi. Je pense qu'il faut quand même enfin, relativiser la chose, d'une part, parce que ce que vous dites, c'est que ça reste, alors évidemment que c'est beaucoup, beaucoup trop ce qui existe, mais ça reste quand même totalement marginal, en fait, à l'échelle de ce qu'est le nombre de classes, le nombre d'établissements, etc., sur l'ensemble du pays, quoi. Donc c'est déjà la première chose, quoi. Et la deuxième chose, c'est que, je ne vais pas m'excuser, d'ailleurs, j'allais dire, je m'excuse de mon côté syndicaliste, mais je n'ai aucune raison de m'en excuser, mais c'est qu'il faut insister sur une chose, ce que tu disais sur la précarité, etc., c'est que la destruction des statuts collectifs protecteurs, si on peut le dire comme ça, le mot n'est pas bon, hein, mais c'est le mot qu'on utilise souvent, mais... Bon, la destruction des statuts collectifs, alors qu'ils soient détruits totalement ou qu'ils ne soient pas détruits d'ailleurs, comme celui de la fonction publique, existe toujours, sauf qu'il est appliqué à de moins en moins de gens, donc ça revient au même, ça pèse énormément, parce que pour pouvoir individuellement et collectivement, alors on peut toujours dire oui, tout le monde individuellement peut le faire, mais voilà, c'est toujours, pour que ça devienne un peu collectif, c'est déjà plus compliqué. La capacité de pouvoir désobéir, parce qu'en fait c'est de ça dont il s'agit, la capacité de pouvoir désobéir, c'est en partie lié quand même à cette garantie collective qu'il y avait en tout cas avec le statut, en l'occurrence de la fonction publique, mais ça peut être d'autres statuts, hein. Moi j'étais chez cheminot et ça marchait pas pour les mêmes sujet, mais sur des questions de sécurité, par exemple, etc., c'est exactement la même logique. C'est bien plus facile de pouvoir dénoncer des choses quand il y a effectivement un minimum de protection. Quand en clair, tu es sûr que tu vas pas être convoqué à 17h pour qu'on te dise, bon, en fait, c'est pas la peine de revenir demain, quoi. Bon, je caricature, évidemment, mais c'est un truc vachement important, quoi. Enfin, je pense cette question-là sur la question des enseignants et enseignantes. Et deuxième chose aussi pour dire, c'est qu'on est passé un peu rapidement sur l'histoire du SNU. Donc, la première année d'expérimentation, c'est 2019. C'est annoncé 2017 et la première année, c'est 2019. Depuis 2019, tous les ans, l'ambition du nombre de volontaires qui est affichée, elle n'a jamais été tenue une seule fois par rapport à ce qu'ils affichaient, quoi. Donc c'est aussi des choses qu'il faut dire. Alors évidemment, là aussi, on peut déplorer qu'il y ait quand même quelques milliers de volontaires, etc., etc. Mais bon, comme tu le disais aussi, il faut voir... Enfin, d'où viennent une partie des volontaires avec beaucoup, on l'avait remarqué en tout cas au début, je me rappelle effectivement sur les familles, j'allais dire, marquées militairement, si on peut le dire comme ça. Mais même ça reste quand même très peu. C'est par ailleurs le fait que ce ne soit pas obligatoire, et ça c'est compliqué de dire comme ça, j'allais dire c'est un des soucis qu'on a sur la lutte contre le SNU depuis le début, c'est que comme c'est pas obligatoire, évidemment il y a plein de gens, et enfin notamment par rapport aux jeunes les plus directement concernés, qui se mobilisent pas, puisque si on est contre, il suffit de pas y aller, quoi. Donc
même les fédérations de parents.
Voilà, c'est... Ouais.
Mais pour, je pense que c'est un peu comme tu disais, c'est la question du statut qui est dégradé et qui fait que les gens ne se mobilisent pas. Il y a aussi un défaitisme ambiant de on perd beaucoup de choses, enfin on perd surtout. Donc quel sens ça a de se mobiliser, notamment sur les questions de. Moi, dans l'éducation, il y a les questions des groupes de niveau, de la sélection, enfin des choses qui beaucoup de collègues étaient contre. Ça s'est mobilisé un peu, on a perdu. Il y avait les souvenirs des retraites. Et je voulais revenir sur les retraites parce qu'à ce moment-là, je me souviens que le SNU, qui était encore d'actualité, avait fait une caravane qui passait dans différentes villes de France.
Qui a fortement contribué à la remobilisation.
Oui. Et qui a fortement contribué. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est qu'en période d'agitation sociale, quand les gens ont du temps pour s'organiser, penser, avoir envie de lutter, la question antimilitariste, elle est quand même présente chez les gens. Et voilà, il y a eu plein de sites, enfin de stands de la caravane qui ont été complètement bordélisées et qui... Voilà.
Ouais. Qui n'ont pas pu se tenir. Ouais.
Ceci dit, bon, tout le propos qu'on a tenu là, il est quand même très, très urbain, quoi. Hein, ce qui serait intéressant aussi, c'est de voir comment ça se passe en milieu rural, parce que là aussi, il y a une très, très grande précarité de la jeunesse. Hein, et donc peut-être qu'ils sont plus sensibles que certains jeunes urbains. Et puis, il y a aussi toutes les politiques qui ont été mises en place en direction des gens, des DOM et des territoires ultramarins, où il y a des services militaires adaptés, de manière à ce que ces jeunes gens s'engagent et trouvent une vague sécurité de l'emploi, je ne sais pas si c'est un emploi, mais enfin sécurité économique, parce qu'il s'agit de maintenir les quelques confettis de notre empire en bonne et due forme, quoi. Hein. Donc ça diffuse quand même pas mal, toutes ces choses-là. Hein.
D'autres... Je sais qu'il y avait un dispositif pour le reste de l'Empire. Une fois, j'ai utilisé Dom Tom auprès d'un Martiniquais, il n'était pas content du tout. Il m'a dit, moi, je dis l'Empire. Donc maintenant, je dis l'Empire. Non, bah, je sais qu'il y avait un dispositif qui était spécifique, effectivement.
Oui, oui, c'est un service militaire adapté.
C'est le nom, c'est ça.
SMA, voilà, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ça, ouais. Service militaire adapté, ouais, je ne l'avais plus.
Voilà.
Et
Ceci dit, ce qui existe pour les jeunes gens qui s'engageraient dans l'armée, ça existe depuis très longtemps, hein, puisqu'il y avait un bureau qui s'appelait le Bumidum autrefois, qui recrutait des jeunes gens dans les confettis d'Empire, comme on dit, pour devenir assistante sociale, pour devenir infirmière, pour devenir... Dans les hôpitaux aussi, il y a énormément de gens qui viennent des îles, quoi. Hein. Ou même dans la pénitentiaire. Enfin, demander à Sarkozy, je suis sûr que la moitié de ses gardiens sont antillais.
Est-ce qu'il y a des mobilisations spécifiques qui s'organisent, peut-être à venir ? Alors, en réfléchissant à la question, j'avais vu circuler une proposition de stage pour enseignants. Je crois que c'est Solidaire qui avait mis ça en...
Non, c'est la tendance intersyndicale émancipation. Le 14 novembre, il y a un stage, effectivement, à la Bourse du Travail de Paris. Émancipation, ça part de la FSU, mais c'est intersyndical, donc il y a des gens de Sud, de la CGT.
C'est une école émancipée, quoi.
C'est des rivaux, je crois. Je ne suis pas à la FSU, je suis à Sud Éducation, ce que je n'ai pas précisé au début. Les deux existent, oui, ce sont des tendances différentes au sein de la FSU.
C'est quand les gens les plus radicaux de l'école émancipée se sont fait virer par des gens qui voulaient des postes à la FSU et qu'on créait émancipation.
Je crois qu'on m'a résumé les choses comme ça. Je crois que c'est bien. Effectivement, oui. Ouais, des stages, nous, avec la Carto, on s'est baladé aussi. Il y a des stages pédagogiques ou syndicaux, beaucoup. Et effectivement, cette journée-là, le collectif Île-de-France sera présent. Pour parler de choses, oui, il y a des choses qui se font.
Là, l'objectif du stage, c'est des formations syndicales, enfin, ouais, des enseignants sur ces sujets-là.
Oui, et il y a quelque chose sur les programmes d'histoire, notamment, qui sera présenté.
C'est ouvert au public ou c'est juste aux syndicalistes?
Alors là, je pense que c'est...
Si je peux me permettre, la particularité quand même, des stages de formation syndicale dans l'éducation, c'est qu'en fait, ils sont très larges en termes d'ouverture. Dans plein de boîtes, des stages de formation organisés par une organisation syndicale, c'est en gros pour les... Si ce n'est pas que pour les militants, c'est en tout cas pour les adhérents de l'organisation en question. Ce qui n'est pas la pratique assez courante quand même dans l'éducation, où c'est relativement large, en fait. C'est ouvert, quoi, en fait. Voilà.
Je ne sais pas où ils en sont, leurs inscriptions.
Oui, sur les inscriptions, en l'occurrence, sur ce stage, je ne sais pas. Mais ça a quand même cet intérêt-là. C'est que ce n'est pas juste les plus convaincus qui vont se retrouver entre eux et entre elles pour se redire des choses qui... Il y a une possibilité d'avoir quand même un peu plus large.
Un peu.
Voilà.
Oui. Et c'est intersyndical.
Oui.
Et je précise aussi que c'est ça dépend pas de l'académie dans laquelle on est. C'est-à-dire que c'est pas parce que la formation elle est proposée par des syndicats parisiens que dans le 93 ou d'autres de partout 94, on peut pas y assister. On a droit à des autorisations d'absence de travail. Oui. Enfin, c'est sur temps de travail que ça peut se faire, ces formations-là. On a le droit à un certain nombre par an.
Et je crois que là, on peut encore s'inscrire. Donc, s'il y a des enseignants qui entendaient que ça intéresse, même d'un peu loin, voilà, faut se renseigner, chercher un peu. Je ne sais plus quel est le lien. L'émancipation, hein, c'est ça ?
Émancipation. Oui, émancipation.
Ouais. Donc, voilà, 14 novembre. Voilà.
On a évoqué le primaire, on a évoqué le secondaire, on a évoqué l'universitaire. Et dans les maternelles, est-ce que il se passe des choses ?
Moi, je crois que j'ai.
On peut leur donner des idées.
J'ai rien vu dans les maternelles. On a vu beaucoup de choses à partir de l'élémentaire, notamment les concours, plein de dispositifs. Mais les maternelles étaient épargnées quand même. Même par Proxred, moi j'avais été démarchée. J'ai eu une information en tant que mère d'élève sur l'intervention de Proxred dans l'élémentaire à côté de laquelle. À côté de la maternelle de mon fils, quoi. Mais les maternelles n'étaient pas emmenées à cette journée-là. On n'a rien vu. On peut s'en féliciter qu'il n'y a rien pour les maternelles. Merci bien.
Ça va peut-être venir.
La Marseillaise, c'est à partir de quel âge?
Ce qu'avait dit Sarkozy, c'est que les jeunes gens qui allaient devenir des délinquants, il fallait qu'on les remarque dès 3 ans. Quoi. Donc il n'est pas dit qu'un jour ou l'autre, il n'y ait pas des tests ou des évaluations pour essayer de voir qui deviendra général.
Il y a déjà des tests et des évaluations en matière, mais pas pour la question militariste.
Pas pour ça. Oui, mais tu prends le micro quand on t'entend.
Je ne sais pas comment le dire, mais est-ce que, par exemple, au niveau de l'éducation, on ne pourrait pas travailler avec les élèves de, comment ça serait possible un monde sans guerre, un monde en paix? Comment ça s'est fait qu'on continue dans cette logique constante dans l'histoire sur destruction pour reconstruire? Que c'est au fond, que ce qui a vraiment je sais pas, bien systématisé le système capitaliste. Parce que, après, je ne sais pas, moi je suis d'Amérique latine, mais je dis qu'après la dernière guerre, la deuxième, j'espère qu'on ne va pas faire les 203, une, et deux, il y a eu bien une reconstruction, ah, les 30 glorieuses, ça y est, on est en paix. Merde, pourquoi il faut détruire pour reconstruire? C'est ma question. Ah ben, mais comment ça, je sais, tout est tellement enclenché, tout tellement systématisé, tout tellement, c'est horrible. C'est horrible. Je pense qu'il faudrait quand même que des tout petits, ils commencent à travailler les machinations de la paix pour qu'il n'y ait pas de mentalité qui accepte d'aller à l'armée.
Oui, mais...
Voilà. On a mené exactement ces réflexions-là dans le collectif et dans mon implication syndicale. La réflexion, c'est bon, combattre la guerre, c'est bien, mais effectivement, il faut donner des perspectives. Et qu'est-ce que c'est l'éducation à la paix? Donc on s'est dit qu'on, dans le collectif, on travaillerait sur ça. On n'arrive pas forcément à tenir tous les bouts, mais je peux faire la pub pour un stage qu'organise Sud 94 et Sud 93 en janvier, et on a intitulé notre stage Éduquer à la paix. Il est en construction, et oui, l'idée, c'est de développer des perspectives positives pour dire, parce que je pense qu'il y a de manière générale un problème effectivement d'imaginaire. Si on ne sait pas, si on n'a pas lu, si on ne sait pas que c'est possible autrement, oui, c'est comme ça, ça a toujours été comme ça, c'est l'humanité, c'est comme ça, voilà. Et moi, avec mes secondes, je travaille sur l'utopie. Alors, il y a beaucoup de dystopies, faut aller chercher les utopies. Mais oui, créer des perspectives dans l'imaginaire pour que, qu'on puisse les rendre réelles, oui, effectivement. Et là, on a parlé d'éducation émancipatrice, Freinet et compagnie. Enfin, c'est surtout Freinet que je connais, ouais.
Par exemple, ce qui me désespère, c'est cette histoire des budgets qui sont en train de discuter, et que tout cet argent consacré à l'armement, c'est-à-dire qu'on travaille, on est en train de travailler pour la mort. À la passe de pour la vie, ouais. La sécurité sociale qui diminue, la santé, l'éducation, la culture.
Et c'est ça aussi qu'on fait comme
réflexion. C'est quoi? C'est qu'on c'est un système consacré à la mort.
Effectivement, il faut lier la question, on a parlé de la question sociale en fait plusieurs fois dans l'émission, parce que en fait, ça, c'est pas un biais qu'il faut attaquer, c'est un système global. Oui, vous avez tout à fait raison.
Oui, sachant qu'on voit bien qu'un certain nombre de gens se réjouissent des nouveaux budgets, ça crée des emplois, et un certain nombre de syndicalistes sont presque contents que des emplois soient créés, même il s'agit de produire des obus, quoi. Hein.
Mais et pour le prendre, juste avant l'intervention je vous ai vu, sur la question économique, l'an dernier, il y a eu une manifestation qui était quand même pas négligeable devant le salon du Bourget contre la vente d'armes. Alors c'était ce qui a beaucoup mobilisé, c'est la question du boycott d'Israël, qui est dommageable, enfin dommage par rapport aux luttes antimilitaristes, c'est pas une lutte à proprement antimilitariste, mais voilà, cette question-là pourrait, enfin j'en parle aussi parce que c'est sur notre, enfin dans le 93, c'est pas, enfin elle est passée vraiment pas à côté de mon lycée, le lien, il y avait des jeunes dans la rue, il y avait des questions la question de la guerre, ils y pensent, il y en a qui en opposition, parfois sur un conflit précis, il y a des réfugiés ukrainiens aussi, enfin donc la question de la guerre, ça les préoccupe aussi.
Oui, donc. Vas-y.
Oui, oui. Excusez-moi, je n'ai pas pu écouter la plupart de contenu des exposés, mais comme il y avait une question de l'éducation à la paix, par rapport aussi à mon sujet, qui est donc le Japon avec les bombardements atomiques et tout ça, et je sais qu'il y a des moments en fait, assez ancien avec les communistes, je pense, qui fait donc la municipalité, c'est des mairies pour la paix, etc. Il y a un réseau et j'ai vu un peu tous ces gens quand il y avait des Hibakusha, enfin, c'est-à-dire des survivants de Hiroshima Nagasaki qui venaient en France, etc. Et j'ai toujours eu l'impression que il y en a maintenant centaines en France, je crois. Et même Paris est assigné pour la paix. Mais j'ai vraiment l'impression qu'il ne se passe rien, que de toute façon, le mouvement de la paix et les membres sont complètement que plus de 80 ans pratiquement maintenant, et qu'il n'y a aucun. Je trouve que je ne sais pas ce qu'ils font ce qu'ils ont fait depuis des années dans ces mairies communistes et autres pour l'éducation de la paix, quoi. Donc, est-ce que vous êtes au courant de. Non, en principe, il y avait quand même. Bon, je pense que. Dans les années 50-60, c'était peut-être plus puissant. Je me posais la question que c'est extrêmement difficile de faire ça en France, parce qu'on a des armes nucléaires en France. Hein, et soi-disant gagné, etc. Mais il faut tout déconstruire. Mais effectivement, je pense que ça se travaille depuis vraiment petit. Et moi, je me suis beaucoup intéressée au moment freiné, justement, parce que c'est vraiment un peu l'idéal que j'avais depuis. Et j'ai quitté le Japon pour ça, parce que l'éducation au Japon, c'est vraiment affreux. Mais la France, c'est extrêmement assez. Moi, je le conçois vraiment très autoritaire, l'esprit de l'éducation nationale. Oui. Quoi. Voilà.
Sachant que le mouvement de la paix, c'était quand même une courroie de transmission du Parti communiste français. Et ça a été construit très largement au moment de la guerre froide, en disant « on veut la paix ». Parce qu'on ne veut pas que l'URSS soit éventuellement attaqué par les puissances occidentales. Donc ça a été très, très manipulé. Effectivement, aujourd'hui, les gens sont très, très vieux, quoi. Voilà.
Et que l'éducation à la paix, dans les années dont tu parles, 60-70, machin, par le Parti communiste, c'était un peu compliqué au moment de la guerre en Afghanistan, par exemple. Et on ne parle pas de la Pologne, la Hongrie, etc.
La Tchécoslovaquie et tout ça, voilà,
On a évoqué un peu les mots de consentement à la guerre et tout ça, mais c'est-à-dire qu'effectivement on parle d'éducation à la paix, mais effectivement quand on constate l'espèce de raz-de-marée des chaînes d'information sur le thème les Russes sont à la porte Saint-Cloud, enfin ce genre de choses, je grossis un peu, mais en tout cas quand on en entend parler en permanence, le moindre drone qui s'écarte un peu de sa route ou de là ça y est c'est bon, et donc tout ça pour bien faire passer l'idée que il faut se préparer, hein, il faut se réarmer, il faut se préparer. Donc ça menace, ça arrive aussi à créer une menace intime qui fait accepter ça. Et donc je pense que pareil pour les jeunes gens, les collégiens, les lycéens, ils sont imbibés de ça, leurs parents sont imbibés de ça. Et donc je pense que c'est difficile aussi de développer des imaginaires qui puissent se dire non. On peut prendre le logiciel à l'inverse et dire on peut essayer surtout de travailler à la paix. Je ne sais pas quels sont les échanges que vous avez avec les jeunes gens, collégiens ou lycéens, sur ces thèmes-là éventuellement, hein, mais qu'est-ce qu'ils expriment peut-être en premier, des craintes, des peurs
Je sais pas. Cassandre, Léonard.
Je crois qu'ils expriment beaucoup que c'est dans l'ordre des choses, hein. Moi, mon fils, il m'a dit, s'il n'y a pas la guerre, il a 7 ans. Il avait une maîtresse un peu vieille France l'an dernier. S'il n'y a pas la guerre, je vivrai peut-être longtemps, mais s'il n'y a pas la guerre.
Ah, il y a 7 ans, il dit ça.
Donc, c'est un exemple, pas généralisé, mais bon.
Il te dit, c'est pas sympa, mais...
Chut, attends. Foufou. Vas-y.
Sur les enquêtes d'opinion, en tout cas sur les jeunes, le rapport de l'armée, parce que l'armée fait des enquêtes d'opinion, bien sûr, la popularité de l'armée dans la jeunesse est assez forte. Même si ça ne se traduit pas forcément par des engagements ensuite derrière, mais elle a plutôt une bonne image et même une meilleure image que d'autres institutions, même que l'école en fait. Hein, donc c'est assez inquiétant. Il y a un vrai potentiel dans la jeunesse de quelque chose. Voilà.
Et puis ils ont un système de communication qui est redoutable. Je ne sais pas si vous avez vu dans le métro, les belles affiches, les spots à la télé. Il y a tout un travail idéologique qui se fait par l'image. Montrant qu'on y a, on est en paix, il y a un métier, il y a de la solidarité interne, enfin, c'est le rêve, quoi.
Et finance des influenceurs sur les réseaux sociaux pour faire la propagande à l'époque du SNU, mais ou des métiers en uniforme, enfin des corps d'armée, militaires, pompiers.
Et puis accessoirement, si on parle des jeunes en question, la réponse à ça est en partie biaisée, parce qu'ils subissent effectivement l'école pour de vrai, ils subissent pas l'armée, donc c'est une vision extérieure qu'ils ont, c'est ce que tu dis, les campagnes publicitaires, etc., etc. Et pour le coup, l'école, ils peuvent. Ils ne devraient pas, évidemment, peut-être, aussi, si c'était un vrai service public de l'éducation pour l'émancipation, etc., etc. Mais comme ce n'est pas ça, effectivement, ils ont une vision peut-être plus négative de l'éducation que de l'armée. Quoi.
Ouais. Sachant qu'on a bien vu dans les années 70-80 qu'avec la fin du service militaire, le mouvement antimilitariste est aussi un petit peu dégonflé. C'est-à-dire quand on était obligé de partir au service militaire, un certain nombre des jeunes hommes à l'époque, et peut-être des jeunes femmes, résisteraient, quoi. Il n'y a plus d'obligation. Il reste des antimilitaristes, mais il n'a plus la force qu'il a eue autrefois, quoi.
Mais sur la question de l'image qu'ont les jeunes de l'école et de l'armée, le parallèle entre les deux, je voudrais juste dire que ça me paraît important, enfin, il y a une. De ne pas s'associer ça, que les élèves n'associent pas dans leur tête l'armée ou la police avec l'école, notamment sur des questions de confiance qu'ils pourraient avoir pour les questions. Enfin, dans mon lycée, on essaie de se mobiliser sur la question des élèves sans papier, qui sont assez nombreux, notamment avec les nouvelles circulaires d'Armanin, Retailleau, loi et circulaire. Une des principales problématiques, c'est de savoir qu'ils peuvent nous parler et que nous, on ne va pas les dénoncer. Enfin, nous ne sommes pas les mêmes que ceux qui les expulsent, quoi. Mais ce n'est pas évident pour eux, et ça va être encore moins évident si on brouille les lignes en faisant des partenariats armée, police, école. Voilà.
Moi, je veux rebondir sur quelque chose que vous avez dit par rapport aux ZRR, donc aux zones qui sont visées par les officiers de défense en recherche, par exemple, et en enseignement supérieur. Donc ça se généralise, c'est plus seulement histoire géo. Et notamment, l'impression que ça donne, c'est qu'il y a plus de choses qui peuvent être couvertes par la défense, et du coup, plus de choses auxquelles il faudrait répondre de façon militarisée. Et pour un exemple, il y a les projets qui couvrent l'agriculture, dont les recrutements sont visés par des officiers sécurité-défense. Le ministère, il s'appelle Agriculture et Souveraineté Alimentaire. Donc c'est des termes qui ont tendance à faire penser qu'il faudra se défendre aussi dans ces domaines-là, et donc peut-être augmenter la militarisation. C'est juste pour dire que ça s'est élargi à d'autres domaines et qu'on retrouve ces termes-là dans des domaines où on ne les voyait pas jusqu'ici, quoi. Comme l'agriculture, par exemple.
Ouais, bon.
Si vous avez d'autres questions déprimantes, n'hésitez pas.
Dans les autres thèmes, il y a les questions de réarmement démographique.
Réarmement.
Voilà, réarmement, c'est-à-dire que c'est pas les politiques de la. Enfin, c'est bon, il y avait toujours eu une question de l'État qui se pose la question de la natalité, des choses comme ça. Mais là, c'est de point de vue militaire, quoi. C'est là pour dire.
Non, mais enfin, on voit bien qu'il y a toute une terminologie. Qui arrive, réarmement de ceci, souveraineté cela, enfin, tout un contexte qui nous met dans les oreilles le fait qu'il y a un danger, russe aujourd'hui, mais il sera peut-être chinois demain ou turc après-demain, et qu'il faut se préparer.
L'Estasia, l'Eurasia, peu importe.
Oui, qu'importe, oui, qu'importe. Ouais.
Ouais. Et par ailleurs, y compris s'il y avait cette menace, en l'occurrence russe, etc., la quasi-totalité des projets en question répondent absolument à rien par rapport à ça, en plus. Hein. Enfin, c'est pas parce que les jeunes auront fait... ils ont passé des semaines avec l'uniforme, le SNU et compagnie, ça n'a aucun... Enfin, il y a vraiment une question sur la militarisation de la jeunesse, enfin, et d'où d'ailleurs le changement de nom du collectif. C'est vraiment ça qui est au cœur du problème. C'est pas la question de défense collective, etc., dont on peut discuter, y compris sur la défense non violente, machin, etc., etc. C'est pas ça du tout l'objectif, quoi.
Enfin, oui, non, mais il est clair que la chair à canon d'hier, c'est pas la chair à canon d'aujourd'hui. aujourd'hui et qu'ils n'ont pas besoin. S'ils ont supprimé le service militaire, c'est pas pour nous faire plaisir, hein, c'est parce qu'ils n'avaient plus besoin de troufions qui servaient à rien, sachant qu'un troufion, ça avait une espérance de vie de 7 minutes dans un conflit derrière un char d'assaut, quoi. Donc voilà. Donc on n'a plus besoin de ces gens-là. On voit bien que le recrutement dans l'armée aujourd'hui, c'est soit effectivement des tueurs à gages, quoi, à béret rouge comme en Algérie, ou alors c'est des ingénieurs, c'est des gens qui sont très pointus sur la question d'informatique et des choses comme ça, parce que les enjeux aujourd'hui, ils sont là. Ils sont pas avec la piétaille. Donc ton fils, tu vois, aura la chance d'y échapper, comme ça, peut-être.
Ne faites pas d'études.
Pour aller dans ton sens, quand on étudie les textes du ministère de l'armée, je ne sais jamais comment
la
ça
guerre,
s'appelle.
La guerre, tu peux dire.
Voilà. Sur la féminisation du personnel, les femmes qui sont en recrutées à l'armée sont plus diplômées que la moyenne des hommes. Parce que ce qu'on cherche, c'est effectivement des bacs plus je ne sais pas combien pour répondre à des besoins qui ne sont pas couverts aujourd'hui. Mais une femme pour défendre devant un char d'assaut, c'est bien que c'est ridicule. Donc,
voilà, aussi, hein.
C'est vraiment... non, mais bien sûr. Mais
sachant qu'un char d'assaut, ça pèse 40 tonnes quand même.
C'est vraiment des hauts niveaux qui sont recrutés et ils arrivent à 17% de femmes hein, quand même.
Ce qui veut bien dire, puisque ce que dit Hélène, c'est que on n'a pas besoin de beaucoup de monde, mais qu'on a besoin de techniciens, de gens très précis. Et donc, en creux, entre guillemets, l'objectif de cette intervention de l'armée à l'école, c'est pas recruter du monde. C'est bien rentrer dans les esprits et fabriquer un consentement.
Oui.
Et un consentement pour obéir et accepter le système tel qu'il est, quoi.
Oui, trouver ça normal de voir des militaires faire des pirates dans les gares, dans les rues, enfin, que la présence soit pas surprenante, parce que ça, ils les découvrent pas en devenant adultes dans la rue. Quoi.
Oui, juste un complément. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui a été dit avant, mais enfin, il y a aussi dans leurs objectifs d'augmenter l'armée de réserve. Donc, à mon avis, c'est plus tourné vers le niveau intérieur. Que ça peut servir l'armée réserve pour aussi contrôler les populations, etc., etc. Plus ça passera mieux, parce que c'est des gens qu'on aura formatés. Il y a aussi cet aspect-là. Bon, vous avez lu tous les textes, on va passer ça aussi.
Non, mais c'est sûr qu'il y a sans doute un projet quelque part qui ressemblerait à la garde nationale américaine, où effectivement, en cas de grandes émeutes, on pourrait mobiliser les corps d'armée constitués et éventuellement faire appel à des volontaires qui se feraient un plaisir de nous mitrailler. Ça, c'est évident, quoi.
Ou même quand on a vu à Valence, lors des inondations, ils ont fait intervenir l'armée pour ramener l'ordre et remettre en route la...
À Valence, en Espagne.
En Espagne, oui, en Espagne, pendant les inondations, pardon, j'étais un peu...
Puis les exercices dans les villes, il y a eu plein de choses, d'événements factices où la population découvre des exercices
très
de l'armée.
Très récemment, en région parisienne, il y a eu des entraînements en cas de grande inondation. Où effectivement, il y avait les pompiers, une partie de... La protection civile. La protection civile, elle est reliée au ministère de l'Intérieur, au ministère de l'Armée. Hein.
Et en cas de problème nucléaire, c'est l'armée qui prend la relève pour non pas protéger les populations, mais empêcher tout ce qu'ils auront envie d'empêcher. Et là, ils auront besoin de piétailles et pas uniquement de gens avec un très, très haut niveau de formation.
Oui, pour tempérer un peu sur le recrutement et à haut niveau de diplôme, des choses comme ça, ils font aussi... Ils recrutent aussi de la piétaille, des gens qui forment. C'est-à-dire qu'ils se disent, on va les former en interne, on va leur proposer, c'est un peu une seconde chance, comme c'est ce que vous disiez pour ceux qui n'avaient pas d'affectation après le bac, ou même après, une promesse d'ascension sociale dans le cadre de l'armée, enfin d'ascension des échelons de l'armée, ce qui n'est souvent pas si vrai que ça, quoi, mais ils forment, quoi. Enfin, ils prennent des gens, ils les forment, ils les font intervenir quand même.
Voilà, il est 16h55, on est à peu près au bout du temps. Il y a des interventions de clôture. Oui, il y a quelqu'un au fond, là-bas.
Jacques.
Donc, nous nous déplaçons rapidement dans la salle, voilà. Bonjour.
Alors, bonjour. Je voudrais revenir à
mon... En face, en face.
Ah, comme ça? Ok. Je voudrais revenir un peu dans le sujet de l'enseignement supérieur et aussi de la recherche. Parce que je vois, venant de l'étranger, je vois qu'il y a beaucoup, et ce système de la France est très efficace à laisser les gens ne pensent beaucoup pas à l'effet de la recherche. Je vois qu'il n'y a aucun moyen de faire la recherche fondamentale sans bénéficier de l'armée. Parce que la guerre maintenant, ça ne se fait pas avec, avec la force physique, ça se fait avec la technologie. Et je vois qu'il n'y a aucun moyen de faire la science et bénéficier de la communauté sans bénéficier de l'armée. Et je pense que ça commence à l'école. Parce que je vois à l'université, il n'y a pas de discussion. Et en Grèce, par exemple, il y a beaucoup de discussions et tous les gens qui font la science, ils sont très militantes. Et ici, je ne vois pas cette relation.
Peut-être on peut terminer par une anecdote. Il se trouve qu'on a un ami proche qui est prof de physique. Et quand il a fait ses études de physique, il a cherché un boulot qui n'était pas lié à l'armée, quoi. Et le seul boulot qu'il ait trouvé à l'époque, c'était de travailler pour les balances testues. Bon, il a travaillé dans les balances de ménage un temps, puis après il a passé la graigne pour justement ne pas travailler pour l'armée, parce qu'apparemment autour de la physique, l'armée est plus que présente, quoi.
Étonnant.
Étonnant. Bien, on vous remercie d'avoir participé à cette émission en direct. On va s'applaudir les uns les autres, alors, comme ça, hein, pour montrer qu'il y avait un vrai direct, quand même. Voilà. Et donc, une petite pause musicale, je crois, Monique. Et puis, il y a une troisième table ronde dont le thème est...
Une troisième table ronde. Avant la troisième table ronde, on fera quelques annonces sur différentes mobilisations auxquelles participe la Fédération anarchiste, notamment le 11 novembre. Puis peut-être quelques infos sur la radio, puisqu'on on a un petit peu de temps. Et puis la troisième table ronde, ça sera ce qu'on a appelé les réactivations de la menace nucléaire militaire, quelque chose qu'on avait un peu oublié, mais qui se rappelle à nous, notamment depuis le début de la guerre en Ukraine. Donc voilà, on va parler de ça tout à l'heure, à partir des cas du Japon et de l'Iran.
Oui, parce que Trump a dit qu'il fallait reprendre les essais nucléaires. On ne sait pas ce que ça veut dire, mais...
Absolument, absolument. C'est tout nouveau.
C'est tout nouveau, ouais. Quand même. Hein. Entre les menaces de Poutine d'un côté et les propos de Trump de l'autre, c'est à l'ordre du jour, quoi.
Tout à fait. Nous sommes dans l'actualité. Merci.
Et puisqu'on en est à conclure cette émission, je voudrais faire une petite... autopromotion de la CNT Éducation. On a une revue fédérale qui s'appelle La Mauvaise Herbe et dont le prochain numéro, le numéro 11, sera dédié à la question antimilitariste. Voilà, qui sera prochain. Il est en cours d'impression.
Très bien. Merci à vous et à bientôt.